Chers amis, voici arrivé donc au premier dimanche de Carême. Alors vous me direz, on écoute toujours le même évangile, celui des trois tentations du Christ au désert. Mais, comme je vous le rappelle souvent, la liturgie est bien faite. Si nous entendons ce même évangile en début de Carême chaque année, c'est parce que ça vaut la peine de s'arrêter sur cette question des tentations, parce que la nature humaine, enfin je ne sais pas comment vous êtes fait, mais la nature humaine est sans cesse bombardée de tentations. Alors, c'est quand même intéressant de comprendre, de saisir d'abord comment le Seigneur a vécu ces tentations. Alors, il est intéressant de rapprocher l'évangile que nous avons entendu du psaume qui le précède dans la liturgie de ce dimanche. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Eh bien, j'allais dire, c'est exactement l'attitude du Christ. S'il y a une véritable tentation dans laquelle il ne faut pas qu'il tombe, c'est de quitter justement l'abri du Très-Haut, c'est-à-dire de quitter l'ombre de son Père et la réalité de sa relation avec son Père. Et donc la véritable tentation serait de quitter cet abri, ou bien de douter que l'abri soit sûr. Voilà la véritable tentation dans laquelle le Seigneur n'est pas tombé. Et nous, c'est la même chose. Alors je suis frappé de voir que d'entrée de jeu, le tentateur, puisque tel est son nom, le malin, par trois fois donc, va essayer de distiller son véritable poison, en instillant le soupçon, si tu es le Fils de Dieu. Et là, c'est le premier point dans ton méditation. Le tentateur a tout intérêt à nous faire douter à la fois de ce que nous-mêmes, de ce que nous sommes nous-mêmes, nous faire douter que nous sommes enfants de Dieu par notre baptême. Et ça, c'est aussi très important parce que, bon, tant et tant de familles font baptiser un enfant et puis après il n'y a plus rien. J'allais dire que la relation avec le père n'est même pas coupée, elle est complètement ignorée. Donc voilà, soyons très vigilants au doute systématique surtout. Certains, du reste, me disent assez souvent, mais le fait de douter, c'est justement la preuve que notre intelligence réfléchit, etc. Ben, notre intelligence, pour réfléchir, elle n'a pas besoin de l'arme du doute. Pour réfléchir, elle a besoin de se nourrir de plus intelligent qu'elle. Bon, donc c'est pas là-dedans qu'il faut tomber. Alors posons-nous la question, où Jésus va-t-il puiser la force de résister à celui qui veut tout simplement le séparer de son Père, le couper de sa relation avec son Père? Eh bien, dans la parole de Dieu. Là, nous ne cesserons jamais de le rappeler. C'est dans la parole et par la parole de Dieu, d'abord vécue personnellement en chacun de nos cœurs et ensuite dans les actes concrets que nous avons à redonner dans notre vie, que nous devons trouver la force de résister à toute espèce de tentation. Cette parole de Dieu, le Christ va la prendre dans le livre du Deutéronome. C'est là un point aussi important. Le livre du Deutéronome qui va nous rapporter eh bien, toute la pérégrination d'Israël, du peuple hébreu, dans le désert. Et donc, on voit bien que le Christ met ses pas dans les pas d'Israël, j'allais dire de ses aïeux, qui ont connu la faim, la soif, mais aussi les tentations dans lesquelles ils sont tombés, entre autres en se révoltant contre Dieu au travers de l'épisode du veau d'or, par exemple, mais que l'abri du Très-Haut, dont je parlais tout à l'heure, ne les a malgré tout pas quittés. Donc, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Donc, on voit bien que c'est la tentation de la faim, comme Israël l'a vécu durant sa pérégrination dans le désert. Et le Seigneur va répondre, bien, la véritable nourriture, ce n'est pas simplement la nourriture matérielle, mais c'est de vivre de la parole de Dieu. C'est la réponse aussi que nous avons à donner. C'est Dieu, entre autres par notre baptême, qui nous donne la force de résister à toute espèce de tentation. Encore faut-il cultiver, bien évidemment, la parole de Dieu. La deuxième tentation est celle, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu. C'est lui seul que tu adoreras. Voilà la réponse du Christ au tentateur qui lui demande d'abord de se prosterner devant lui. Alors, la pédagogie du Christ, c'est l'inverse. Il va d'abord donner la terre promise à Israël et ensuite il tentera de faire comprendre l'action de grâce par l'adoration du don qui a été fait à Israël de la terre promise. Donc on voit bien que la manière dont le Christ s'y prend est à l'inverse de celle du tentateur. Et la troisième tentation, nous ne sommes pas étonnés qu'elle se passe, au temple de Jérusalem, car on sait que trop l'importance de la représentation de ce qu'est le temple de Jérusalem. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, etc. Cette tentation sur la puissance hégémonique que le malin, et on le voit bien dans notre monde aujourd'hui, essaye de placer dans le cœur de certains de nos dirigeants, entre autres. Tout simplement, cette troisième tentation tourne autour du fait que nous n'avons pas à exiger de Dieu des preuves de sa présence et même de son existence et de sa protection. Pourquoi ? Nous l'avons vécu à Noël. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a envoyé son propre Fils. Voilà la réalité, voilà la réponse. Il n'y a pas d'une réponse écrite, c'est une réponse tangible. C'est le Fils de Dieu qui a pris notre propre nature humaine. Et donc, parce qu'il a justement pris notre propre nature humaine, nous n'avons pas à demander des preuves. La preuve, elle est tout simplement la même que la nôtre, c'est-à-dire qu'il a la même existence que moi, que vous, c'est-à-dire la nature humaine. Hein. Et qui plus est, cette nature humaine, 100% homme, 100% Dieu, va ressusciter après le martyre du Christ. Donc on voit bien que c'est une nature humaine qui est déifiée, si je puis dire, comme nous-mêmes, par notre baptême, nous avons revêtu le Christ pour toujours. Pour toujours. Ici et maintenant, et après le départ de cette terre, au lendemain de notre mort, nous sommes baptisé pour l'éternité. Voilà le véritable don de Dieu que peut nous donner son humanité. Alors, nous n'avons pas à demander de preuve. La preuve, elle est tout simplement que nous allons la vivre à Pâques, que le Christ est ressuscité. Alors, nous voyons bien que ces trois réponses de Jésus à ce soupçon et ce doute du début de l'évangile, si tu es le Fils de Dieu, le Christ n'est pas rentré en discussion avec le tentateur. Il ne se justifie pas. Contrairement à notre pauvre nature humaine, nous avons toujours la tentation de nous justifier. Mais si j'ai fait ceci, si je suis là, c'est parce que. Non. La seule justification que nous avons à donner, c'est notre justification chrétienne, c'est que nous appartenons au Christ par notre baptême et nous avons à redonner à ce monde bien les preuves de la fidélité à notre baptême. Nous sommes fils et filles de Dieu. Alors le tentateur semble me dire, si tu es le Fils de Dieu, prouve-le. Mais Jésus n'a rien à prouver. Il n'a rien à prouver, tout simplement parce que, comme j'ai rappelé tout à fait au début de cette méditation, il est demeuré et il reste sous l'abri du Très-Haut. Parce qu'il est en relation permanente avec son Père et qu'il en est le Fils, cette fidélité entre paternité et filiation, filiation et paternité, c'est cela qui constitue l'abri du Très-Haut. Et c'est un abri qui ne peut être détruit. Alors, frères et sœurs, restons fidèles aux promesses de notre baptême, puisque le temps du carême est un temps baptismal. Portons dans notre prière les catéchumènes qui vont vivre leur première étape par l'appel décisif cet après-midi à la cathédrale, dont notamment les deux adultes de nos paroisses, Julien et Pascaline, et nous pouvons demander pour eux eh bien, la fidélité à ce qu'ils vont recevoir. Amen.